contente d'un repli de 0,42%. Madrid ne perd que 0,48%. Alors sur le marché des devises, l'euro bondit d'un 60% à 1,1763 et gagne également 0,96% à 129 yens. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, perd 1,07%. C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci Antoine Verlin, il est 14h03. Vous êtes à l'écoute de France Inter et c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 7 octobre 1933, 7 octobre 2003, l'aventure d'Air France.
À France 430, Paris 124-0, bonsoir.
Air France 1, good afternoon.
Le vol radar, Air France 827, bonsoir, on arrive au niveau 130.
Air France 1, heavy, clear for takeoff.
D'histoire. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 7 octobre 1933 au Bourget, le ministre de l'Air, Pierre Cotte, inaugurait une nouvelle compagnie aérienne, Air France. Après les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la France se dotait à son tour d'une compagnie nationale en regroupant 4 des 5 grandes entreprises qui se partageaient à l'époque le marché français du transport aérien. Air Orient, Air Union, la Sydna, la SGPA et la légendaire Aéropostale. Mais le 7 octobre 1933, personne ne pouvait imaginer que 70 ans plus tard, en fusionnant avec KLM, Air France allait devenir la première compagnie aérienne du monde. Le transport aérien en était encore à ses débuts et seuls quelques aventuriers osaient traverser l'Atlantique en avion. Parmi eux, Dieudonné Coste et Maurice Bellonte, qui 3 ans avant la naissance d'Air France, décollaient de Paris pour entreprendre la première traversée de l'Atlantique d'est en ouest. C'était le 1er septembre 1930 à l'aéroport du Bourget.
C'est de l'héroïsme patient à la témérité raisonnable de ces hommes que la liaison régulière Europe-Amérique sera bientôt une réalité confortable.
À quand, mes chers auditeurs, le week-end à New York.
Bravo.
Philippe Michel Thibault, bonjour.
Bonjour.
Alors quand on monte aujourd'hui,
merci de me recevoir.
Vous en prie. Alors quand on monte aujourd'hui dans un Airbus ou un Boeing, on n'imagine pas ce qu'était le transport aérien il y a 70 ans et au moment de la naissance d'Air France. Dans votre livre, le roman d'Air France, vous rappelez que dans les années 30, voyager en avion, c'était d'abord une aventure, mais c'était aussi une aventure réservée à un tout petit nombre de privilégiés.
Oui, tout à fait. Donc d'abord, les passagers étaient souvent des passagers gratuits, c'est-à-dire qu'ils payaient pas leurs billets. Tellement c'était une aventure dangereuse. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule femme qui a fait ce voyage avant la création d'Air France. Il s'agit de Colette.
La première, oui, en 1900.
La grande écrivain Colette. Ouais. Et puis donc c'est pour ça, comme la sécurité laissait à désirer, qu'on transportait essentiellement du courrier. Et c'est pour ça aussi que c'est resté, puisqu'on parle encore aujourd'hui du court, moyen et long courrier. Donc ça vient de là.
Alors cela dit, il y avait peu de passagers, Philippe Michel Thibault, mais il y avait déjà pas mal de compagnies. À la fin des années 20, vous dites qu'il y en avait à peu près une douzaine, enfin dans les années 20.
Beaucoup,
et puis elles ont été regroupées.
Hein. Regroupées, c'est-à-dire il y a eu pas mal de ces compagnies-là qui ont fait faillite, qui ont déposé le bilan, donc qui ont été rachetées, etc. Donc là, c'était le marché qui faisait son travail de main invisible pour reprendre l'excellente formule de Ricardo.
Mais cela dit, elles étaient subventionnées. Elles étaient à la fois privées et l'État.
Alors je rappelle que Ricardo, c'était un économiste du 19e siècle que Karl Marx s'est farci, quoi.
Voilà. Oui, mais dans le rapport, Ricardo n'a pas très bien le rapport, mais cela dit, ces compagnies, il faut le rappeler, ça expliquera d'ailleurs la naissance d'Air France, étaient toutes subventionnées. L'État les aidait. Mais cela dit, elles étaient aussi largement contrôlées par les constructeurs qui leur imposaient leurs avions, bien sûr.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, même souvent, les constructeurs, c'était eux-mêmes leurs propres transporteurs, hein, comme Farman, Briguet, Bloch.
Mais est-ce que c'est pour cette raison, Philippe Michel Thibault, que en 33, donc le ministre de l'air de l'époque, donc qui était
Pierre Cotte,
est-ce que c'est pour cette raison qu'il a décidé de les rassembler dans une seule et même compagnie?
Ben c'est pour plusieurs raisons, donc effectivement celle que vous indiquez, mais aussi parce que la France était la dernière grande puissance européenne à ne pas avoir de compagnie nationale.
Il y avait déjà KLM, Sabena, Imperial Airways.
KLM qui est absolument, donc comme c'est d'actualité, je rappelle qu'elle a été fondée en 1929, donc c'est la plus ancienne. Et puis, Pierre Cotte, qui était un radical socialiste authentique, puisqu'il était à l'aile gauche du Parti radical, avec Pierre Mendès France, avec Jean Zay, etc., avait été choqué par le scandale de l'aéropostale. Et d'ailleurs, quand il a pris son portefeuille de ministre de l'air, il est allé voir Paul Painlevé, qui était son prédécesseur, le grand mathématicien Paul Painlevé, qui était malade, qui allait mourir quelques mois plus tard. Et Paul Painlevé, lui, qui était vraiment un modéré, lui, hein, et qui lui dit, il faut limer les dents de ses constructeurs. Faites ce que je n'ai pas pu faire. C'est-à-dire de regrouper.
Ça, ouais. Et c'est comme ça qu'est née Air France. Alors, vous racontez dans votre livre, c'est assez drôle, Philippe Michel Thibault, comment à la conférence de presse qui a précédé l'inauguration d'Air France, c'est un journaliste, je crois, qui a trouvé le nom d'Air France.
Oui, un de nos confrères. Hein. Donc, c'est même assez épique, parce que Ernest Röhm, qui est le premier président d'Air France, convoque une conférence de presse en plein mois d'août. Il y a 4-5 journalistes, dont ce Rafalovitch du quotidien Le Journal, qui trouve le nom d'Air France. Parce qu'à la fin de la conférence de presse, Ernest Röhm dit, il nous faut un nom, on n'a pas trouvé, alors on va faire un brainstorming. Enfin, j'actualise, hein, c'était pas exactement. Et puis, et pourquoi pas Air France, puisqu'il faut Air, et puis le nom du pays, puisqu'il y a, etc., etc. Donc voilà, Air France, Rafalovitch, Le Journal.
Et puis on choisit comme emblème celui qui était d'une compagnie aérienne Air Orient, c'était l'hippocampe qui symbolise évidemment l'union de l'air et de la mer. Et puis surtout, on inaugure la compagnie, donc le 7 octobre 1933 au Bourget, il y a exactement 70 ans, et c'était en présence de nombreux journalistes, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Cérémonie inaugurale de la compagnie Air France au Bourget, titre l'illustration en octobre 33. La réorganisation du transport aérien français, qui devenait urgente, est un fait accompli, se félicite ce magazine. Aux 5 compagnies contractuelles est désormais substituée une compagnie unique qui porte le nom d'Air France. Ainsi est créé le cadre d'une action nouvelle qui doit procurer au transport aérien français sur les grands itinéraires du globe les mêmes avantages qu'ont retiré de leur monopole de fait des entreprises comme l'Imperial Airways britannique ou la Lufthansa allemande. Alors, au-dessus de cet article, il y a une belle photo en noir et blanc où l'on voit une foule de messieurs élégants, hein, style années 30, réunis sur la piste de l'aéroport du Bourget, au pied même des avions, hein, autour du ministre de l'air, Pierre Cotte, qui prononce un discours et déclare notamment « L'aéronautique marchande maintiendra l'harmonie des relations entre les peuples et servira le prestige de la France ». Un programme ambitieux pour une aéronautique encore bien artisanale, hein, en 1933. À l'époque, les aviateurs sont des pionniers, des héros, et prendre l'avion est une vraie aventure. Nous volions à une vitesse de 250 à 300 km/h, raconte un des premiers passagers d'Air France. À chaque trou d'air, le pilote augmentait le régime du moteur. À la chute brutale dans le vide, s'ajoutait donc un vrombissement des plus violents qui me procurait de curieuses sensations, jusque-là inconnues de moi. D'autre part, pas d'aération. Le moteur était graissé à l'huile de ricin. Au bout de peu de temps, la cabine, alors relativement petite, était imprégnée d'une odeur d'huile de ricin chaude, excellent pour le mal de l'air. À l'époque aussi, les pannes sont courantes, mais apparemment, tout le monde trouve ça normal. En cas de panne, raconte un pilote, on se pose généralement sans grand mal, et puis on va déjeuner avec les passagers. Et puis, ça semble vraiment impensable aujourd'hui, des liens personnels se créent entre passagers et pilotes. Et oui, l'un d'eux raconte, nous faisions tout ce qu'il fallait pour être agréable à nos clients, avec lesquels nous correspondions quelquefois pour les faire revenir. Certains clients même écrivaient à la compagnie pour réserver leur place, à condition que ce soit le pilote de leur connaissance. Nous en étions très fiers. Étonnant aussi, hein, les brochures distribuées par Air France pour initier les voyageurs à l'avion, un peu apeurés, je pense. Oh, ne croyez pas que la vitesse vous empêche de jouir du spectacle. Le paysage défile lentement et vous avez l'impression que l'avion est suspendu par un fil invisible. Ou encore ceci, que le virage ne vous inquiète pas. Si l'avion penche sur le côté, c'est qu'il doit en être ainsi et vous ne risquez rien.
C'était les débuts d'Air France en 1933. Des têtes qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, Philippe-Michel Thibault.
Vous rappelez très bien résumé par votre ami.
Mais alors c'est bon, à l'époque, vous rappelez, c'est 38 000 kilomètres, hein, le réseau était déjà important. Il y avait autant d'avions qu'aujourd'hui, 245 avions.
Oui, mais alors complètement disparates. Ouais. Il n'y avait pas de politique homogène de la flotte.
Et puis alors, il y avait un aéroport, l'aéroport du Bourget, dont les nouvelles installations étaient inaugurées en 1937.
La nouvelle gare aérienne du Bourget, la première d'Europe, est inaugurée par le président de la République, accueilli à son arrivée par M. Pierre Cotte, ministre de l'Air.
Le grand aviateur Michel Détroyat nous donne en exclusivité l'interview de voici.
Notre compagnie Air France, après avoir passé des moments difficiles, commence à être à égalité avec une association commerciale européenne. La compagnie transatlantique travaille avec acharnement à préparer la ligne transatlantique nord. Si la France a été la première sur l'île de l'Atlantique Sud grâce à Jean Mermoz, nous rattraperons certainement le retard que nous avons sur l'Atlantique Nord avec les nouveaux matériels que nous avons en construction et dont les premiers exemplaires vont sortir à la fin de 1938.
Une archive de 1937. À l'époque, on oublie aussi que les voyages transatlantiques, il n'y avait pas encore de ligne, je crois, pour Air France, mais ça se faisait en hydravion. C'était important,
oui,
les flottes aériennes.
Ah oui, oui.
Philippe-Michel Thibault.
Oui, oui. Bon, je suis pas spécialiste des avions, hein, donc c'est effectivement sont les hydravions qui priment et les compagnies aériennes en général ont hésité longtemps avant de prendre les avions à réaction, enfin pas à réaction, à moteur, quoi. Enfin,
bon. Et puis alors on était aussi à la veille de la guerre et pendant la guerre, vous racontez ça assez longuement. Air France et son président de l'époque, Léon Pugeot, qui était nommé le 1er septembre 1939, c'est-à-dire au début de la guerre, ont eu des difficultés. Hein.
Beaucoup de difficultés. Alors, faut bien comprendre qu'Air France n'a pas été la SNCF. Il n'y a pas la bataille de l'air comme il y a eu la bataille du rail. La bataille de l'air, c'est passé ailleurs. C'était avec De Gaulle et Lionel de Marmier qui avaient rejoint De Gaulle et qui étaient pilotes à Air France et qui a créé les LAM. Enfin, ça nous entendrait trop loin. Et c'est le cas de le dire puisqu'ils étaient à Damas. Et
les avions qui transportaient le général De Gaulle.
Plus que ça. Non, mais c'est les résistants, le réseau, il a tout créé. Hein. Mmh. C'est Lionel de Marmier était un type très très courageux et génial. Il a tout fait. Hein.
Pour ce qui concerne Pugeot, hein,
et alors Pugeot, lui, c'est ce que j'appelle. Enfin, je vais pouvoir le placer parce que on me censure toujours là-dessus. C'était un collaborateur centriste, c'est-à-dire que il prenait acte de la collaboration, mais il était absolument contre Laval, puisqu'il était ministre de l'air à un moment donné.
Et sous Pétain, dans le premier gouvernement.
Il a démissionné parce que Laval avait tout pouvoir et Laval le révulsait. Et donc, il dirige Air France et il dit, bon, on applique l'armistice, mais rien que l'armistice. Et quand les nazis voulaient prendre les avions, etc., bon, vous savez que c'était qu'ils se comportaient comme des gangsters, ce qu'ils étaient. Lui organise une certaine résistance passive, c'est-à-dire il joue la montre, etc., etc. Résistance passive.
Voilà. Enfin, ça suffira pas pour l'empêcher d'être.
Parce que là, on est pressé, puis que Monsieur Gélinet.
C'est pas ça, mais il faut qu'on arrive.
J'ai
quand
pu
même
passer collaborateur centriste. Je suis assez content parce que j'y arrive jamais.
Cela dit, il a quand même été victime de l'épuration. En tout cas, il était débarqué d'Air France. C'est un nouveau président qui vient à la tête d'une compagnie qui change. Jusque-là, Air France était une compagnie mixte. Hein, il y avait l'État et il y avait encore des capitaux privés. Là, ça devient en 1948 la compagnie nationale Air France, qui pendant 45 ans va être à capitaux d'État à 99%.
Ouais.
Et alors, donc, le nouveau président, c'est Maxime Anse.
Visionnaire.
Oui.
C'est lui qui structure tout le nouveau réseau et c'est lui qui voit que les États-Unis est un marché capital pour le développement. Donc ça, c'est lui, ça. Et c'est lui qui met, peu avant sa mort, puisqu'il meurt d'un cancer en 61, et alors qu'il est toujours président d'Air France, c'est lui qui lance Air Union.
Oui, mais enfin visionnaire. Moi, oui. Je veux bien, Philippe Michel Thibault, oui. Vous rappelez quand même qu'il commet une erreur monumentale, c'est que il ne s'intéresse qu'aux transports internationaux. Il refuse de faire une compagnie aérienne intérieure, et c'est sans lui que Air Inter va se créer en 1954.
Tout à fait. Lui, alors il faut rappeler quand même que Maximence a été élu un député socialiste, et donc il savait ce qu'étaient les rapports avec les élus locaux, puisqu'il était lui-même élu local. Il avait dit, moi, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Ça, c'est pour ça que j'emploie ce mot un peu trivial. Je veux pas qu'on m'emmerde avec les élus locaux. Et que j'ai d'autres chefs où il avait quand même un réseau mondial à structurer.
En tout cas, c'est sans lui donc que ce sont Air Inter, et les deux compagnies, Air France et Air Inter, vont profiter de la mise en service de la nouvelle aérogare d'Orly, inaugurée avec son lyrisme habituel par le général de Gaulle le 24 février 1961.
La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Voici qu'en l'ère industrielle, notre pays s'aperçoit que toutes les limites s'éloignent, qu'il a en lui toutes les sources de la puissance et du rayonnement. Orly nous a ce matin confirmé dans cette certitude.
Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les boeufs chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver.
À destination de New York et Houston, vol Air France 007. Immédiat.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Air France.
Et c'était Gilbert Bécaud, un dimanche à Orly. Orly, dont les nouvelles installations, Philippe Michel Thibault, vont favoriser l'essor d'Air France, qui a 2 600 000 passagers par an, à l'époque, et qui commence à être bénéficiaire peu de temps après, en 66.
Oui, c'est la première fois que l'État n'a pas à renflouer les caisses.
Alors, cela dit, malgré tout, victime de la première grande grève, je crois même la plus importante de son histoire, c'était en 71, et je crois que c'était à cause du salaire des pilotes, qui étaient, je crois, les mieux
voilà,
du monde.
Voilà, c'est la première. Oui, tout à fait. Ben, ça change pas franchement. Donc, c'est la première grande grève, effectivement, des pilotes. Et c'est là que les pilotes prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent mettre en échec la direction d'Air France, et ça va devenir un état dans l'état. Et donc 71, il y a une grève qui dure 10 jours, à telle enseigne qu'il y a un lock-out. Et les trois PDG des trois compagnies qui veulent pas céder, parce que il y a un enjeu financier extrêmement important. Je passe sur les détails, hein, parce que ça, voilà. Bon, et donc ils signent un communiqué de presse tous les trois. Donc c'est Galichon pour Air France, Vergniaud pour Air Inter, et puis UTA, je m'en souviens plus, mais on s'en fout pour le moment. ils veulent pas céder, ils disent que dans le communiqué de presse, ils veulent pas céder. Mmh. Et puis Chaban-Delmas, qui était le premier ministre de l'époque, lui voit midi à sa porte et que c'est une grève très impopulaire, et il négocie la paix sociale, il lâche tout aux pilotes, dans le dos des trois PDG.
Alors les PDG d'Air France, c'est intéressant, si dans votre livre on se rend compte qu'ils sont nommés par l'unique actionnaire qui est l'État, avec lequel pourtant ils savent vraiment...
Présent, c'est toujours pareil.
Oui, mais ils savent garder malgré tout leur distance. Écoutez d'ailleurs l'un des présidents d'Air France, Pierre Giraudet, racontant comment en 1976, le premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, avait tenté en vain de faire acheter des avions Mercure de Marcel Dassault par la compagnie Air France. Pierre Giraudet.
Un jour, le premier ministre m'a invité à déjeuner. Et pendant tout le repas, il m'a indiqué qu'il souhaitait que j'achète ces avions. Et je lui ai expliqué moi-même, je lui ai répliqué en lui donnant toutes les raisons pour lesquelles je ne devais pas acheter ces avions. Et à la fin du repas, il m'a dit, cher président, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Le gouvernement vous demande d'acheter ces avions. Et je lui ai dit, monsieur le premier ministre, je vous ai fort bien compris, mais je me suis peut-être mal exprimé. Il n'y a que moi qui puisse signer de tels marchés. Moi, je ne les signerai pas. Mais vous pourrez toujours changer de président. Et là, il m'a répondu en souriant, pas aussi changer de premier ministre.
Alors, c'était l'extrait d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur la chaîne Histoire. Il est gonflé, hein, Pierre Giraudet.
Ouais, dans les années 70. Premier ministre, c'est l'actuel président de la République. Ouais.
Mais c'est quand même. Mais tous les à partir de lui, tous les présidents vont se comporter de la même manière. Vous racontez comment, par exemple, Blanc, qui a été président d'Air France, a demandé, quand on l'a nommé, il a demandé d'être qu'on lui foute la paix.
Voilà, textuellement. Textuellement, oui. Et il a obtenu ça. Il a vraiment géré. Là, c'est à partir vraiment de ce moment-là que Air France devient autonome, que les présidents sont jugés au résultat.
Ils achèteront quand même l'avion Concorde, hein, il l'achètera, Pierre Giraudet.
Eh oui.
Alors que Concorde n'est pas commercialement rentable. Cela dit, c'était une belle vitrine pour Air France et puis pour la France en général. Alors, à cette époque quand même, à partir des années 70, le paysage aérien est vraiment bouleversé, Philippe-Michel Thibault, par la déréglementation et par la mise en concurrence qui entraîne des fusions. Par exemple, Air France va fusionner, va même absorber UTA et Air Inter.
Et Air Inter, et ça c'est le travail de Bernard Attali, il faut lui rendre cet hommage, parce qu'en général, on lui reproche d'avoir mal géré la compagnie.
Il a connu une grosse grève lui aussi.
Et il a connu même plusieurs
grèves. Il a même provoqué son départ.
Tout à fait, mais c'est lui qui a vu qu'il fallait constituer un groupe, qu'il fallait donc acheter UTA coûte que coûte pour justement avoir Air Inter aussi, puisque UTA était actionnaire, l'un des gros actionnaires d'Air Inter. Et ça, il l'a réussi, et c'est lui qui a constitué donc le groupe de départ. Et voilà.
Et puis alors, cela dit, Bernard Attali va refuser en revanche quelque chose qui devient aussi pratiquement avec la déréglementation presque obligatoire, qui est la privatisation de la compagnie, qui commence en 99 avec l'introduction d'actions. Ça, c'est ce que voulait d'ailleurs, oui.
C'est Blanc.
Oui, mais lui, non, mais Attali a refusé cette privatisation. Il ne la souhaitait pas.
Il ne la souhaitait pas, oui. Enfin, c'était pas encore l'heure de la privatisation. Hein. Oui. C'est au moment de Blanc, c'est plus compliqué que ça. Hein. Pardonnez-moi, mais Attali n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'est la privatisation, c'est Blanc qui l'a voulait, et c'est là-dessus qu'il a démissionné. Mm-hmm. Et c'est donc Spinetta qui lui a succédé. Ça, pour reprendre la chronologie l'évolution politique de l'affaire.
Alors, elle a commencé en 99, cette privatisation, puis surtout, elle est devenue, ou elle deviendra.
Donc, l'ouverture du capital. Ouais. Non, l'ouverture du capital.
En 99.
C'est pas le 99, parce qu'il faut rappeler quand même que Jean-Claude Dessault était ministre communiste des transports et qui dit je ne serai jamais l'homme de la privatisation d'Air France. C'est ça. Hein,
enfin, en 99, c'est plus lui. Et puis, alors, juste surtout cette privatisation.
Comment c'est plus lui? C'est toujours lui. En Dessault.
En 99.
Ah oui, tout à fait. On a fait ça.
Ah oui,
il avait refusé. Enfin, bon, peu importe.
Cela dit, elle devient malgré tout effective, surtout quand Air France donc aura fusionné avec KLM, une décision annoncée il y a quelques jours. Ouais. France Inter, Patrick Roger, le 30 septembre 2003.
France Inter.
Air France est donc sur le point de devenir ce matin le roi du ciel mondial. Numéro 1 sur la planète en termes de chiffre d'affaires et numéro 4 en nombre de passagers transportés. Pour parvenir à ce niveau, la compagnie doit tout de même reprendre le néerlandais KLM. Le conseil d'administration d'Air France a approuvé hier soir le projet de fusion. Mais visiblement, Valérie, c'est le seul chemin pour parvenir à ce qui devrait devenir donc un géant de l'aérien.
Oui, avec cette alliance, Air France devient le premier groupe mondial devant American Airlines en termes de chiffre d'affaires. Air France était déjà la première compagnie européenne grâce à la bonne santé de ses activités malgré la crise actuelle du transport aérien. En nombre de passagers transportés, le nouveau groupe prendra la quatrième place mondiale. Son rapprochement avec KLM lui permet de distancer définitivement British Airways et Lufthansa sur le marché européen. Air France disposera désormais de deux hubs, deux plateformes d'importance, Roissy et Schiphol Amsterdam.
Alors, première compagnie aérienne l'année de son 70e anniversaire, c'est pas mal pour Air France. Cela dit, ça va être Air France KLM. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Philippe-Michel Thibault, que c'en est un peu fini aujourd'hui des compagnies nationales?
On pourrait le penser, mais je pense que la France a une telle... Le mythe de la France, c'est quand même un message, le message universel des droits de l'homme. Et je crois malgré tout qu'Air France, et je le souhaite, et on aura bouclé l'histoire avec Pierre Cotte et Maxime Anse, grâce à Jean-Cyril Spinetta qui a réussi un coup de génie là-dessus. Et je crois qu'Air France perdurera au travers de vos 2000 ans d'histoire.
Merci. Merci, c'est une jolie fin. Merci Philippe-Michel Thibault. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du roman d'Air France qui a été publié chez Gallimard avec une préface dont de l'actuel président d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. À lire également Des métiers et des hommes, histoire sociale d'Air France, un livre de Nadia Simoni qui sortira en novembre aux éditions du Cherche Midi. Enfin, je rappelle que ce soir, la chaîne Histoire diffuse à 21h Les Ailes en Bleu, un documentaire que vous avez écrit, réalisé par Éric Dietlin et qui a reçu ce week-end le prix du jury du Festival européen du film d'entreprise de Poitiers. Ce soir donc, à 21h, Les Ailes en Bleu, l'histoire d'Air France. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, de Zola à Bernard-Henri Lévy, en passant par Jean-Paul Sartre, les intellectuels, mais tout de suite à 14h30, celle qui est à France Inter, ce que Simone de Beauvoir était à Jean-Paul Sartre. Chris, bonjour.